Salut à toutes, vous êtes sur RTF 95,4 MHz comme on disait autrefois, et maintenant on dit ce qu'on veut, parce qu'on est sur le net, on est sur le DAB, on est partout. Alors vous écoutez Les Barricades Mystérieuses, une émission de musique classique et de littérature, et nous allons écouter un petit peu de musique classique de diverses époques, et puis deux livres, l'un très récent et l'autre un petit peu moins récent, mais c'est pas un livre ancien quand même, donc de Olivier Rollin, Bakou dernier jour, et puis de Antoine Compagnon, 1966, année mirifique. Voilà, et puis du Debussy, du Fauré, un petit peu de musique très variée. Alors nous allons commencer par, nous allons faire dans le régional. En effet, il faut pas hésiter, quand on peut faire du régional, à diffuser des auteurs ou des musiciens locaux. Et là, alors, vous vous souvenez peut-être, certains d'entre vous, de Guy Marissal qui faisait une émission de musique classique sur RTF il y a très longtemps. Et c'était également le professeur d'orgue du Conservatoire national de région de Limoges. Et c'était aussi l'organiste titulaire de l'église Saint-Michel. Et il avait enregistré plusieurs disques, et en particulier celui-ci que j'ai trouvé spécialement intéressant. Alors c'est un enregistrement qui a une vingtaine d'années, mais que j'ai trouvé très intéressant car ça s'appelle le manuscrit de Limoges. 1720-1730 à peu près. Ah, je dis bien à peu près. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de manuscrit de Limoges ? Eh bien, il y avait un bibliothécaire, Christian Gomy, qui était bibliothécaire à la fac de médecine, peut-être. Enfin, c'était un des bibliothécaires de l'université. Et c'était également un musicologue très savant qui connaissait tout le reste sur la musique baroque et sur la musique ancienne. Et il avait été le dédicataire lui-même d'un manuscrit qui contenait des pièces d'orgue. Alors, qui lui avait donné ce manuscrit ? Christian Gomy a toujours été très discret et en fait, on n'en sait rien. Mais il en a parlé à Guy Marissal, qui était le prof d'orgue, et ils ont décidé de faire un disque. Et voilà, c'est ce disque, premier enregistrement mondial du manuscrit de Limoges. Alors, je vous propose d'écouter quelques pièces de cet ouvrage, manuscrit de Limoges. Alors, certaines pièces sont repérées, et puis d'autres, on ne connaît pas l'auteur. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est très bien écrit. Donc, c'est sans doute un professionnel, un organiste professionnel qui l'a fait. Alors voilà, je vous propose d'écouter quelques-unes de ces pièces tirées du manuscrit de Limoges, interprétées par Guy Marissal, qui est à l'orgue, un orgue d'Ombedos de l'église Sainte-Croix de Bordeaux. Voilà, bah c'était un extrait de ce manuscrit de Limoges. Alors, on ne connaît pas l'auteur des pièces que nous avons entendues, là, interprété donc par Guy Marissal à l'orgue. Et les voix, c'est le chœur Sagittarius, dirigé par Michel Laplénie. Alors, on change complètement d'époque et aussi d'inspiration. Et je vous propose d'écouter une œuvre de Debussy, une ballade, la ballade slave. Alors, c'est une œuvre, enfin, j'allais dire presque de jeunesse. Donc, c'est une œuvre qui date de 1800, entre 1890. Et c'est tiré d'un volume, l'œuvre complète pour piano de Debussy, interprété par Jean et Flamme Bavouzé, un disque dont nous avons entendu déjà des extraits. Il y a la valse romantique, il y a les images, les estampes pour piano, le célèbre pour le piano, l'île joyeuse, etc., etc. Donc des pièces très célèbres et très belles aussi. Voilà, mais vous avez entendu cette pièce de Claude Debussy tirée de ses... Alors, il y a deux CD avec l'œuvre complète de Debussy pour piano, interprétée par Jean et Flamme Bavouzet. Je me demande toujours quelle est l'origine de ce prénom très étrange de Flamme. Enfin, on s'appelle comme on peut. Bon, premier livre de cette émission, Olivier Rollin, Bakou, dernier jour. Alors, je vous ai parlé de plusieurs livres d'Olivier Rollin. C'est un écrivain que j'apprécie beaucoup. Et là, c'est un livre extrêmement étrange à son début, et voici pourquoi. Il explique qu'en 2003, il était allé en Afghanistan, 2003, pour faire une sorte de reportage pour France Culture. Et en revenant, il a dû s'arrêter à Bakou. Alors Bakou, c'est en Azerbaïdjan. Et c'est un endroit où il y a énormément de pétrole. C'est très très riche ce pays. Et donc il est allé dans un hôtel qui s'appelait l'Apcheron. Ce qui ressemble beaucoup à Achéron, vous savez, l'Achéron, il y avait le Styx et l'Achéron dans l'Antiquité, c'était un des deux fleuves des enfers. Et donc, il va à cet hôtel et il voit son livre. Il voit son livre et un de ses livres exposés, et il y avait marqué sa date de naissance et de mort. Il y avait marqué Boulogne-Billancourt 1947, Bakou 2009. Et évidemment, c'est une maladresse, mais ça lui a inspiré. Il s'est dit, mais finalement, je vais mourir ici. Voilà, où je suis mort ici depuis 2004. Et il se promène dans Bakou, dans ces endroits improbables. Alors, il y en a plein. Et il y a aussi son frère Jean Rollin qui a écrit un livre qui s'appelle Hormuz, et j'en ai parlé récemment sur cette antenne. Et alors lui aussi, alors il adore ces endroits improbables, pleins de choses extraordinaires, où on rencontre des gens étonnants, invraisemblables. Alors c'est très, je trouve, alors avec des paysages extraordinaires, parce que c'est un pays pétrolier. Alors il y a des, je sais pas comment ça s'appelle, des dériques. Il y a des dériques. Mais des forêts de dériques qui extraient le pétrole. Et alors, il y a des gens qui sont là. Alors, il y en a un qui parle français. Il ne sait pas comment ni pourquoi. Et alors, évidemment, c'est une région, Bakou, alors avec quelques bâtiments qui sont censés être de très beaux bâtiments, en tout cas des bâtiments qui ont coûté très cher. Et on cultive également le kitsch et le moche, mais aussi le surprenant, l'étonnant, voilà. Et tout ça compose un livre qu'on lit avec grand plaisir, et on aurait presque envie d'aller y faire un tour, à condition de pouvoir repartir quand on voudrait, à la seconde près. Car au long de ces boulevards interminables, absolument brûlés de soleil, avec comme perspective des tours, des forêts de dériques qui extraient du pétrole, eh bien, on n'a pas tellement envie d'y rester. Et pourtant, Olivier Rollin réussit à faire un livre très intéressant à lire, plein d'humour aussi. Et voilà, donc un livre dont je vous recommande vraiment la lecture. Je pense qu'il a été édité en poche. Et en tout cas, c'est au seuil dans la collection Fiction et compagnie. Donc, Bakou, dernier jour. Alors, je rassure les auditeurs et les lecteurs de Olivier Rollin. Il n'est pas mort. Voilà, ça va sûrement lui arriver. Mais pour l'instant, il n'est pas mort. Il n'est pas mort à Bakou en 2009. Bien, alors, autre écrivain, c'est Marcel Proust. Marcel Proust qui, alors, tout le monde connaît l'histoire. Je la rappelle très vite. C'est au début de « À la recherche du temps perdu », c'est dans « Un amour de Swann », c'est la première partie de « Du côté de chez Swann ». Swann va chez des gens qui s'appellent les Verdurin, qui sont des très gros bourgeois, très très riches, très amateurs d'art, mais qui sont en même temps très stupides et très vulgaires, et aussi très, très méchants à leur manière. Et il rencontre Odette de Crécy. Odette de Crécy, qui est ce qu'on appelait à l'époque une demi-mondaine, c'est-à-dire quelqu'un qui joue un peu de ses charmes, mais attention, sur un grand pied et avec des gens titrés et des aristocrates. Et il rencontre Odette. Elle ne lui plaît pas particulièrement, mais un soir, il découvre que elle ressemble à la Zéphora de Botticelli, qui est donc dans qui se trouve dans la chapelle Sixtine. Et donc voilà, Odette lui ressemble. Ce jour-là, en plus, Proust nous explique qu'elle a les traits tirés, elle est fatiguée, elle a les yeux battus, etc. Et ce jour-là, il entend la sonate pour piano et violon d'un musicien. D'un musicien fictif qui s'appelle Vinteuil. Voilà, donc c'est la petite phrase de Vinteuil. Et Proust nous dit qu'elle était, je cite, « comme l'air national de leur amour ». Alors, on s'est bien sûr demandé quelle était la petite phrase de Vinteuil, et on l'a demandé à Proust. Proust a répondu. Alors, il a donné plusieurs sources. Il a dit que c'était la sonate de Franck, que c'était la sonate de Fauré, que c'était une sonate de Guillaume Lequeux, qui est un musicien moins connu. Voilà. En tout cas, je vous propose d'écouter un extrait de la sonate pour violon et piano numéro 2 en la majeure de Gabriel Fauré. C'est la petite phrase de Vinteuil, si l'on veut, voilà, par Théotime Langlois de Swart au violon et Tanguy de Villancourt au piano. Alors, mais outre les noms particulièrement à rallonge des interprètes, mais le violoniste joue un violon qui s'appelle le Davidoff. C'est un violon de Stradivarius qui date de 1708 et qui appartient au musée de la musique, donc il est à nous tous. Voilà, on le lui prête, parce qu'on est gentil. Et quant au piano, eh bien, c'est un piano Erard de 1891, qui appartient lui aussi au musée de la musique. Thank you. Voilà, alors vous avez entendu cette sonate de Gabriel Fauré sur ce merveilleux violon de Stradivarius, ce violon dit Davidov. Vous savez que les Stradivarius ont tous un nom. Il y en a quelque chose comme 230 et quelques, si ma mémoire est bonne. Voilà, et puis un piano est rare, ça c'est beaucoup moins rare. Il y a une assez jolie collection, d'ailleurs, au Conservatoire de Limoges, de pianos de la fin du 19e siècle, comme ça. Je crois même qu'il y a une classe de pianos un peu anciens. Enfin, voilà. Alors, petit retour dans le passé. Autrefois, les moins jeunes de nos auditeurs s'en souviendront peut-être, il y avait sur France Musique une émission qui s'appelait « Du Danube à la Seine ». Alors, c'était le dimanche matin de bonne heure, genre 7 heures, et visible. Et c'était fait par quelqu'un, monsieur qui s'appelait Adolphe Sibert, et qui avait un accent alsacien. Et alors, ça faisait partie de ce qu'on appelait les cas sociaux de France Musique. C'était des vieux musiciens qui n'avaient pas beaucoup de ressources et qu'on aidait comme ça un peu à vivre. Et alors, ce type donc, du Danube à la Seine, il ne passait que des valses de tout le monde, sauf de Émile Waldteufel. Il n'a jamais passé une seule valse de Waldteufel de toute sa vie radiophonique. Et pourtant, Waldteufel, donc, qui était né alors, à Strasbourg en 1837, qui est venu à Paris. Et donc, il était ami de Jules Massenet, par exemple, mais aussi de Prosper Mérimée. Mais il fréquentait l'empereur, il a rencontré Franz Liszt, il a rencontré Verdi, et il est devenu ami, tenez-vous bien, avec le prince de Galles en 1874. Et il a dirigé les bals de l'opéra jusqu'en 1891, et il est mort en 1915. Voilà, donc des valses très célèbres. Alors, je vous propose d'écouter... la valse des patineurs, je crois que tout le monde la connaît, même si tout le monde ne sait pas à qui l'attribuer. Voilà, donc c'est de Emil Weiteufel et elle est exécutée par Dominique Mi au piano. Voilà, alors tout le monde la connaît, c'était la célébrissime valse des patineurs de Emil Waldteufel, alors interprétée au piano par Dominique Mie, mais il y a eu des versions pour accordéon en particulier. C'était un des grands succès de Yvette Horner, qui jouait la valse des patineurs. Voilà, et j'ai rétabli un petit peu, puisque... Adolphe Sibert, dans une émission entièrement consacrée aux valses de Vienne, n'a jamais voulu le faire passer. Ben voilà, j'ai rétabli un petit peu l'équilibre. Alors, deuxième livre, 1966, Année mirifique, par Antoine Compagnon de l'Académie française. Alors d'abord sur la personnalité d'Antoine Compagnon, qui est un type extraordinaire, extrêmement intelligent, très clairvoyant, mais en même temps très modeste. C'est vraiment une belle personne. Alors, chose étonnante, c'est que c'est un polytechnicien et il a décidé que... Donc, vous savez, quand on va à Polytechnique, en sortant, on va dans ce qu'ils appellent une école d'application. Alors, souvent, on va à l'école des mines ou à l'école des ponts et chaussées. Et Antoine Compagnon, donc, est allé à l'école des mines. Et puis, finalement... Il s'est aperçu qu'il n'avait pas très envie de creuser des mines et donc il a décidé de s'intéresser aux lettres et à la recherche littéraire. Il a publié quantité de livres et il a fini au Collège de France où il a eu une chaire pendant très longtemps. Et alors donc, parmi ses derniers livres, il y a Proust du côté juif, très intéressant, qu'il a écrit... avec la collaboration, si j'ose dire, de lecteurs pendant le confinement du Covid, où les gens cherchaient, l'ont aidé, etc. Et alors là, 1966, année mirifique. Pourquoi, alors, et pourquoi 1966 ? Eh bien, c'est pour Antoine Compagnon l'occasion de nous rappeler des quantités de choses qui ont marqué la vie intellectuelle dans cette année 66, où il y a eu des quantités d'événements. Vous savez, il y a des années comme ça, 1913 par exemple, aussi a été une année extraordinaire, où il y a eu la première du Sacre du Printemps de Stravinsky, etc. Alors là, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, des gens consacrés aux cinéastes, par exemple, comme... Godard, Jean-Luc Godard, c'était Le Mépris, les premiers films de Bresson, de Robert Bresson, Au hasard Balthazar. Et il y a eu aussi la polémique de Roland Barthes contre Raymond Picard. Roland Barthes qui était un peu la nouvelle critique et Picard représentant la vieille critique, l'ancienne critique de la Sorbonne. Le début de la recherche sur Proust, et il nous explique que 1966, ça a été le moment où les gens qui avaient connu Marcel Proust ont tous été morts et qu'on allait commencer à regarder, à pouvoir... hériter ou acheter des manuscrits de Proust et commencer des recherches sur les manuscrits et faire ce qu'on allait appeler la recherche génétique, hein, pour voir les diverses étapes de la création. Mais c'est aussi la polémique entre les nouveaux intellectuels, mais aussi avec le nouveau roman, c'est-à-dire avec des figures comme Robe Grillet, Duras, Léris, et alors aussi Philippe Solers. Et alors c'est l'occasion, surtout, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai lu ce livre avec plaisir, et ça a été l'occasion de me rendre compte que ces gens... D'abord, il y avait une vie intellectuelle qui avait une vivacité extraordinaire. Et... qui pour la plupart, ces gens-là se sont exportés aux États-Unis. C'est-à-dire, il y avait Jacques Derrida, Michel Foucault, les gens comme ça, Gérard Genette, qui sont tous allés enseigner dans des universités américaines et qui ont aussi un peu essaimé en France, parce qu'il y a eu toute la période structuraliste avec Lévi-Strauss. Mais tous ces gens-là sont... les responsables de ce qu'on a appelé aux États-Unis la French Theory, et qui a inspiré par la suite, pour beaucoup, les woke, qui en sont les héritiers. Bon, on s'aperçoit aussi qu'il y avait aussi un goût pour la polémique à cette époque, pour la polémique intellectuelle, qui se déroulait à travers des journaux, des émissions de Bernard Pivot. C'est aussi l'époque où une culture jeune commence à émerger, et cette culture jeune, elle est représentée surtout par le livre de Georges Perec, Les choses, que Antoine Compagnon mentionne. Les choses, je ne sais pas, ceux qui ne l'ont pas lu, eh bien je les engage à le lire, parce que d'abord il y a le style de Perec, un style inimitable, et il y a aussi tous ces objets qui étaient représentés par le journal L'Express et le culte des objets qui commence vraiment à cette époque, une sorte de collectionnite. Qu'est-ce qu'on voit également? On voit aussi l'extraordinaire aveuglement des intellectuels qui ont assisté avec joie et plaisir au triomphe du totalitarisme le plus épouvantable, puisque c'est à cette époque que la Chine populaire, la révolution, les révolutions, etc., le règne de l'URSS partout, une espèce de mensonge de la part des communistes dans le monde entier, ignoré par les intellectuels qui font semblant de trouver ça très bien. Voilà. Et puis, bien d'autres choses encore dans ce livre. Donc, c'est dans la Bibliothèque des Histoires, 1966, Année mirifique, par Antoine Compagnon de l'Académie française. C'est un gros livre. C'est un gros livre, mais croyez-moi, ouais, 532 pages, mais ça vaut la peine de l'acheter et de le lire. Voilà, alors tout le monde a reconnu, bien entendu, la fin du Tristan et Isolde de Wagner, la mort d'Isolde, transcrit, alors tenez-vous bien, transcrit pour le piano par Franz Liszt lui-même et interprété ici par Tanguy de Villancourt. Vous avez cette espèce de montée extraordinaire qu'il y a dans la fin du Tristan de Wagner, et on se dit, mais... est-ce que ça va se terminer? Est-ce que ça va se terminer? Puis finalement, ça se termine. Et ça se termine comme cette émission. Donc, c'est sur cette musique de Wagner transcrite par Liszt que je vous dis au revoir et je vous retrouve la semaine prochaine sur RTF. Salut tout le monde.